et le CESA était signé, bien entendu, Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Plus d'un millier de suppressions de postes en France pour Sanofi. Avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre, le laboratoire pharmaceutique a plutôt profité de la crise sanitaire, mais il entame une réorganisation, nous expliquera Anne-Laure Jumet.
Dans ce journal, nous ferons également un tour des derniers enjeux des municipales à deux jours maintenant du scrutin. 6 grandes villes françaises passées au crible. Ce sera avec Pierre Neveu.
En Corse, le projet du centre de stockage de déchets en plein air à Giuncaggio, près d'Aleria, était examiné par la chambre d'appel administrative de Marseille. Explication sur ce projet à très haut risque environnemental avec Véronique Robérotte. Et puis du sursis pour Kirill Serebrennikov, le réalisateur et metteur en scène russe, a bien été reconnu coupable aujourd'hui de fraude par un tribunal de Moscou, mais la mobilisation du monde du spectacle a visiblement payé, il n'ira pas en prison. Sanofi se réorganise dans le cadre d'un plan stratégique dont la direction prend le soin de préciser qu'il n'a rien à voir avec l'épidémie de Covid-19. Il s'agit plutôt de rationalisation des dépenses. Le géant pharmaceutique français se porte en réalité très bien. Il va verser 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires cette année. Mais il envisage la suppression de 1700 emplois en Europe, dont un millier en France. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Ce plan de départ se fera, en France au moins, exclusivement sur la base du volontariat, promet Sanofi. Il s'étalera sur 3 ans.
Oui, et c'est la suite de la stratégie annoncée en décembre par le patron du groupe, Paul Hudson, avec un recentrage notamment sur les vaccins, le traitement du cancer et des maladies rares, et la fin de la recherche-développement sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui se traduit donc par ce projet de 1000 suppressions de postes en France. Une annonce qui intervient 10 jours après la visite d'Emmanuel Macron sur un site Sanofi près de Lyon. Le chef de l'État avait salué un investissement du groupe dans la production de vaccins et annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros pour le domaine de la santé. Pour les syndicats, la pilule est amère. Thierry Baudin de la CGT.
C'est un contexte qui est absolument inacceptable. On file 4 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. On est la troisième entreprise la plus bénéficiaire de France. On sort d'un plan de restructuration qui a touché la recherche, la visite médicale. Et ils décident un nouveau plan de restructuration. Il faut un moment que la population elle, se révolte, que les politiques se révoltent. Il faut en finir avec cette mainmise de la finance sur cette industrie qui est essentielle pour le pays.
Alors pour les détails des fonctions concernées par ces 1000 suppressions de postes, il faudra attendre la semaine prochaine. Une réunion est prévue lundi avec les syndicats. Selon Force Ouvrière, la direction a prévu d'utiliser la rupture conventionnelle collective pour mener à bien ce plan, un outil prévu par les ordonnances travail, ce que ne confirme pas le groupe à ce stade. Une solution qui pourrait convenir à EFO qui a déjà signé un précédent plan similaire, même s'il faut faire attention aux risques psychosociaux que peuvent engendrer de tels départs. Met en garde Pascal Lopez, délégué central chez Sanofi Aventis Group.
Entre un plan de licenciement sec et une rupture conventionnelle collective qui respecte de façon stricte la notion de volontariat, on choisira toujours la rupture conventionnelle collective. Malheureusement, dans le plan précédent, on a eu quand même des salariés qui se sont retrouvés extrêmement surchargés.
Et Pascal Lopez de rappeler qu'il y a eu 3 suicides ces derniers mois au sein du groupe en France, dont un sur un site de Sanofi le 19 juin dernier. Un contexte lourd pour les salariés qui attendent aussi une réaction du gouvernement. Ce soir, Bercy se dit vigilant à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint et aucune fermeture d'usine.
Merci Anne-Laure Jumet. Les antennes de BFM TV et d'RMC toujours perturbées par un mouvement de grève des salariés comme au sein d'autres médias de Next Radio TV, filiale du groupe Altice. Les grévistes contestent un projet de suppression d'environ 500 postes, notamment de journalistes, soit le tiers des effectifs de Next Radio TV. Le mouvement a été reconduit hier jusqu'à lundi matin. Les municipales, dernière ligne droite, dernière prise de parole ce soir avant un week-end important dans les états-majors politiques. Comme tous les 6 ans, on va compter les conquêtes et les défaites. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Dimanche soir, au cours de la soirée municipale sur France Culture, en direct, on surveillera particulièrement les résultats dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, évidemment, pas seulement.
Et si à Paris, la messe semble dite, tant les sondages donnent un avantage conséquent à la maire sortante, Anne Hidalgo, la situation à Lyon et Marseille est en revanche plus incertaine et à ce titre plus intéressante. À Lyon, les écologistes sont arrivés en tête le 15 mars dernier, en tête à la ville comme à la métropole, ce qui a obligé l'ex-marcheur Gérard Collomb à former une alliance avec les LR pour le second tour, rapprochement contre nature pour La République En Marche, qui a décidé de lui retirer son investiture. À Marseille, après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, la ville peut basculer à gauche. Michel Rubirola conduit une liste d'union de la gauche avec les Verts. Elle a reçu les soutiens de Julien Bayou et d'Olivier Faure. Elle bouscule les pronostics, alors qu'à droite, sa rivale Martine Vassal, longtemps donnée favorite, se retrouve empêtrée dans une affaire de possible fraude aux procurations.
Alors évidemment, Pierre, on surveillera également dimanche les scrutins à Bordeaux, à Lille, à Toulouse également.
Bordeaux, où pour la première fois depuis la guerre, le Palais Rouen se joue au deuxième tour. Le maire sortant, Nicolas Florian, a noué une alliance avec La République En Marche pour conserver la mairie, alors qu'à l'issue du premier tour, il ne disposait que de 96 voix d'avance sur le candidat écologiste Pierre Humeric. À Lille, le bastion socialiste tremble. Martine Aubry se retrouve en position délicate. Elle est aujourd'hui en opposition directe avec ses alliés écologistes, avec qui elle gouverne la ville depuis maintenant 3 mandats. Enfin, à Toulouse, le maire LR Jean-Luc Moudin, qui est arrivé en tête au premier tour, il a constitué une alliance avec La République En Marche pour tenter de faire obstacle à une liste des forces de gauche, emmenée par un écologiste Antoine Maurice. Deux adversaires politiques qui s'affrontent depuis maintenant 12 ans au sein du conseil municipal. Dans toutes ces municipalités, les sortants mis en difficulté comptent sur une mobilisation citoyenne pour inverser la tendance, car au premier tour, rappelons-le, l'abstention atteint des niveaux records, 55% au niveau national, mais plus de 63% d'abstention à Toulouse, plus de 67% à Lille.
Merci Pierre Neveu. Et au-delà de ces civils, évidemment, la soirée électorale dimanche soir, peu avant 20h sur France Culture, s'intéressera à l'ensemble des scrutins du second tour des élections municipales. La ministre de la Justice a demandé aujourd'hui à la procureure générale de Paris un rapport circonstancié sur la nature précise de l'enquête du parquet national financier. Enquête qui visait, selon l'hebdomadaire Le Point, à identifier une taupe dans l'affaire dite des écoutes et qui a conduit à éplucher les factures téléphoniques détaillées de nombreux avocats. Nicole Belloubet demande notamment des précisions sur les modalités des réquisitions effectuées, leur étendue et leur durée.
En Corse, le problème de la gestion des déchets revient avec l'examen aujourd'hui à Paris, à Marseille, pardon, du litige autour du projet d'un centre de stockage en plein air.
Déchets ménagers ou amniotifères, c'est le projet de centre de stockage en plein air de Gione Caggio près d'Aleria en Haute-Corse. Un projet très contesté en raison du risque environnemental dans lequel l'État a déjà été débouté. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Elle oppose le porteur du projet, un privé, aux collectivités de Corse et à plusieurs associations. Le site accueillerait 80 000 tonnes de déchets ménagers par an pendant 30 ans et 102 000 tonnes de terres amniotifères sur 13 ans. Maître Thibaut Solé IAC représentait ce matin les associations opposées au projet. Il s'inquiète, vous allez l'entendre, d'un projet délirant sur lequel l'État a déjà changé d'avis.
Il y a une aberration sur le choix du site parce que on est loin de tout site de production de déchets, très loin et en contradiction avec le plan de prévention des déchets de la Corse. Hein, donc les élus, la collectivité de Corse n'est pas du tout favorable à ce projet. Et puis surtout, on a affaire à un site qui est un piton rocheux instable, qui se situe dans le bras d'un fleuve, hein, sur 300 degrés autour de ce site. On a un cours d'eau non négligeable, le deuxième fleuve de Corse, capricieux, sujet aux cris torrentiels. Le site est connu pour connaître des glissements de terrain. Pourquoi l'État s'en faire? C'est une bonne question. Vraisemblablement parce que il y a une crise des déchets que tout le monde connaît depuis des décennies en Corse et que, faute de solution à court terme, eh bien ma foi, aussi mauvais soit-il, ce projet pourrait être un exutoire, au moins temporaire, pour résorber une partie de la crise plutôt que de envoyer ces déchets à Nice. Pour le moment, le juge administratif a délivré les autorisations. Très clairement, c'est un projet qui pourrait commencer à être exploité dans le courant de l'année prochaine. Alors, il y a une forte mobilisation de tous les riverains, évidemment, une opposition des collectivités, une opposition des associations de protection de l'environnement. On verra bien la position qu'adopte la Cour administrative de Marseille. L'arrêt sera rendu sous une semaine à peu près. Vraisemblablement, il y aura un pourvoi devant le Conseil d'État.
Thibaut Soleillac au micro de Véronique Robérotte, dont le reportage complet sur cette affaire de Gione Caggio est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Gione Caggio, mauvaise solution à la crise des déchets en Corse, point d'interrogation. À Paris-Orly, la réouverture partielle de l'aéroport a été marquée ce matin par une action d'une vingtaine de militants d'Extinction Rébellion. En se positionnant sur une piste, ils ont réussi à interrompre brièvement le trafic selon Aéroports de Paris pour protester contre contre les émissions de gaz à effet de serre provoquées par le trafic aérien. 29 personnes ont été placées en garde à vue à la suite de cette action, dont un journaliste du magazine Reporter. En ce qui concerne la reprise des opérations de vol, écoutez le reportage d'Hakim Kasmi.
Monsieur, bonjour, je m'appelle Audrey, je suis votre chef de cabine.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, espace d'un mètre à respecter dans les files d'attente, ou encore caméra thermique pour voir la température des passagers, autant de nouvelles mesures qui constituent l'embarquement des passagers, ce qui ne semble pas inquiéter les passagers comme Robin, 13 ans, qui part en vacances pour 2 semaines en Croatie.
Tout le monde porte des masques et tout a l'air bien. S'ils ont réouvert, c'est que les choses ont changé, je pense.
Et tes parents, ils n'étaient pas inquiets que tu partes en Croatie, loin, malgré le virus ?
Non, parce que j'ai bien été confinée et j'ai eu aucun symptôme et tout a l'air de se calmer.
Un protocole sanitaire qui concerne également les prestations à bord, comme les boissons, les repas. Car pour éviter les contacts, la carte a été réduite et ils sont sous cellophane. Comme nous l'explique Audrey, chef de cabine depuis 13 ans, qui avait hâte de reprendre aujourd'hui les vols sur Transavia.
On a essayé de minimiser au maximum les allers-retours déjà entre les offices et les trolleys lorsque nous sommes en service. On ne prend plus les paiements en espèces, on prend uniquement les paiements en carte bancaire. Et les masques également qui sont obligatoires pour tous les passagers, les masques chirurgicaux.
Une adaptation qui concerne également les pilotes qui n'ont pas pu voler depuis 3 mois, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'aviation. Alors même s'ils ont pu s'entraîner en simulateur, rien ne remplace un vrai vol, comme l'explique Vincent Bouvet, notre commandant de bord.
Les splits, oui, c'est fait partie des terrains les plus compliqués du réseau, puisque la piste est accolée à un relief. Donc en fonction de la météo, on peut être amené à avoir de la turbulence. Aussi, la montagne est tellement proche de la piste que si on change le sens de l'atterrissage, on va devoir faire une manœuvre à vue qui demande une précision de pilotage pour ne pas aller trop proche de la piste et garantir l'atterrissage, et ne pas aller trop loin parce que sinon on va avoir les alarmes qui vont détecter qu'on va trop proche d'une montagne.
Après 1h45 de vol, nous arrivons à Split sans encombre. Transavia devrait doubler ses vols dans les prochaines semaines et se faire profiter des vacances d'été pour attraper ses pertes.
Reportage d'Hakim Kasmi.
En Russie, Kirill Serebrennikov a été reconnu coupable aujourd'hui de fraude à des fins d'enrichissement personnel et condamné à une peine avec sursis.
Le réalisateur et metteur en scène, directeur artistique du Centre Gogol et décoré en France de l'Ordre des Arts et des Lettres, était jugé par un tribunal de Moscou en compagnie de plusieurs co-accusés dans ce que les soutiens de l'artiste considèrent comme une enquête entièrement fabriquée par le pouvoir. Les premières accusations remontent à il y a 3 ans. Le parquet avait requis 6 ans de prison contre l'artiste qui a toujours nier les charges pesant contre lui. Au final, donc, c'est du sursis, Léo Vidal.
La petite foule assemblée au pied du tribunal Meshchansky de Moscou pousse des cris de joie. À 16h40 heure locale et après des heures d'une attente interminable, le verdict vient de tomber pour Kirill Serebrennikov. 3 ans de prison avec sursis et environ 10 000 euros d'amende, des peines similaires pour ses 3 co-accusés. Le metteur en scène et réalisateur russe, l'un des plus célèbres du pays, était accusé d'avoir détourné à son profit plus de 120 millions de roubles de subventions publiques. Au terme d'un procès qui a parfois confiné au kafkaïen, dont le dossier d'accusation était manifestement monté de toutes pièces, d'un procès que la défense n'a eu de cesse de qualifier de procès politique, il vient d'être reconnu coupable, et pourtant. Quelques minutes plus tard, quand Serebrennikov et ses camarades sortent du tribunal, ils remercient leur soutien. L'ambiance est à la fête, et si l'amertume est bien présente, l'émotion qui domine est plutôt le soulagement.
Je trouve que c'est injuste. Ces gens ont été reconnus coupables et même s'ils n'ont pas été emprisonnés, le simple fait qu'ils soient reconnus coupables, c'est monstrueux. Mais à tout prendre, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Compte tenu de la sévérité des tribunaux russes qui condamnent presque systématiquement les accusés, compte tenu aussi du réquisitoire du parquet qui avait demandé ce mardi 6 ans de prison ferme, cette peine de prison avec sursis fait pour Kirill Serebrennikov l'effet d'un acquittement.
Reportage de Léo Vidal. Le gouverneur du Texas vient d'ordonner la fermeture immédiate des bars après une flambée des cas de coronavirus dans l'État. À l'heure actuelle, il est clair que l'augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d'activités, et notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars. D'après le gouverneur Greg Abbott, il y a eu hier près de 6000 nouveaux cas de Covid-19 au Texas, un record. Dans ce contexte, l'administration Trump a décidé de ne pas fléchir. Elle demande à la Cour suprême d'abroger l'emblématique loi Obamacare. C'était évidemment une des promesses de campagne de Trump en 2016. Le texte voté en 2010 avait permis à des millions d'Américains dépourvus d'assurance maladie d'être couverts. Les Républicains l'ont attaqué à de nombreuses reprises. Ils veulent désormais lui porter le coup de grâce. À New York, Loïc Laurie.
Un acte d'une cruauté inimaginable, les mots sont ceux de Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates. Alors que l'épidémie outre-Atlantique repart de plus belle, il n'existe, dit-elle, aucune excuse morale à ses efforts pour démolir la couverture sanitaire de millions d'Américains. C'est pourtant bien l'objectif des Républicains opposés depuis le début à cette pierre angulaire de la présidence Obama et qui prie donc la Cour suprême d'enterrer la législation. En 2017, déjà, ils étaient parvenus à faire supprimer une disposition primordial du texte, une amende infligée aux particuliers ou aux entreprises qui ne souscriraient pas à une assurance maladie. Sans ce volet de la loi, l'administration actuelle assure que c'est l'ensemble d'Obamacare qui est caduque. 20 millions d'Américains ou plus pourraient alors se retrouver sans assurance. Mais pas de quoi émouvoir Donald Trump. Malgré le contexte sanitaire, le président en difficulté avance ses pions à 130 jours de la présidentielle. La Cour suprême pourrait, elle, se pencher sur ce texte en octobre, un mois avant l'élection.
Loïc Loury. Un suspect a été tué par la police lors d'une attaque à Glasgow aujourd'hui. 6 personnes ont été blessées, dont un policier, a annoncé la police écossaise sur Twitter. En Belgique, démarche inédite de 5 femmes métisses. Elles portent plainte contre l'État pour crimes contre l'humanité. Nées de mères noires et de pères blancs durant la période coloniale du Congo belge, elles ont été séparées de force de leur famille et puis littéralement abandonnées. Aujourd'hui, Jérémy Audouard, elle demande réparation.
La Belgique avait déjà présenté ses excuses en 2019, mais les 5 plaignantes estiment que c'était insuffisant. Parmi elles, Léa Tavares-Mujinga qui demande réparation financière et symbolique.
Les excuses ne suffisent pas. Celui qui a commis un délit doit savoir réparer.
Les plaignantes ont entre 2 et 4 ans lorsque l'État belge les arrache à leur famille. Placées dans des missions catholiques, elles subissent maltraitance et privations. C'était il y a 70 ans quand les Belges blancs n'avaient pas le droit d'avoir des enfants avec des Congolaises noires. En 1960, alors que la République démocratique du Congo devient indépendante, les Belges quittent le pays et abandonnent les fillettes sur place. Livrées à elles-mêmes, elles sont abusées sexuellement par des milices locales. Toujours traumatisées, les victimes trouvent enfin aujourd'hui la force de parler.
Quand on pense, on pleure. Vu qu'on était enlevés, tout petit, on a vécu notre enfance dans des conditions indescriptibles, quoi. Que moi je compare à Auschwitz.
Selon différentes estimations, il serait entre 4000 et 12000 enfants métis à avoir subi le même sort.
Des menaces de mort une nouvelle fois à l'encontre d'un journaliste d'investigation en Slovaquie, Peter Szabo, couvrant des affaires de corruption de haut niveau dans le pays. Ce collègue du journaliste Jan Kuciak, assassiné il y a 2 ans, on s'en souvient, a trouvé une balle dans sa boîte aux lettres. Peter Szabo travaille notamment sur les réseaux de la drogue en Slovaquie et sur des soupçons de violation de la loi pesant sur un ancien ministre de la Justice ainsi que sur des fraudes à la TVA.
France Télévisions victime d'une cyberattaque qui a visé un des sites de diffusion mais qui n'a pas eu d'impact sur les antennes. L'attaque a néanmoins imposé l'activation d'un site de secours.
Les cyberattaques qui n'ont pas forcément été plus nombreuses ces derniers mois mais qui ont généralement été plus fructueuses, plus réussies qu'en temps normal, comme l'explique Nicolas Mazucci, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il répond à Fiona Mogadam.
On est déjà dans un monde où les tentatives de cyberattaque sont multiples et extrêmement fréquentes. Néanmoins, ce qu'on a vu, c'est justement à l'occasion du confinement, du Covid, de la multiplication du télétravail, en fait, la concomitance de 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est donc le télétravail, avec la mise en place par des entreprises et des organisations de solutions ad hoc, justement, pour les salariés, les employés, pour la connexion à distance, soit directement à leur réseau et leurs applications depuis leurs propres ordinateurs, donc ce qui est une première vulnérabilité. Et une deuxième vulnérabilité qui a aussi eu cours par rapport au télétravail, ça a été la multiplication des visioconférences au travers d'un certain nombre d'applications qui étaient dédiées, mais qui au départ n'étaient pas forcément très bien sécurisées. Notamment, il y a eu une grosse affaire au début du confinement autour de l'application Zoom de Facebook. Alors Facebook ayant résolu ce problème-là, le deuxième élément, c'est plutôt, on va dire, des effets d'opportunité de cyberattaque vers des acteurs qui, on va dire, étaient moins bien préparés que les grands acteurs entreprises et les grands acteurs étatiques traditionnels, qui sont d'une part le système de santé
et d'autre part les collectivités locales.
En mars dernier, la métropole d'Aix-Marseille et l'assistance publique Hôpitaux de Paris ont par exemple été également victimes de cyberattaques. La centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin est à l'arrêt ce vendredi depuis 10h52, heure à laquelle le réacteur numéro 2 s'est arrêté automatiquement en raison d'un orage qui s'est abattu dans la région. L'arrêt définitif de cette centrale est programmé pour mardi. Des températures légèrement en baisse demain et un temps toujours perturbé avec beaucoup de nuages, des averses localisées et toujours des risques orageux, notamment sur les Alpes et sur le Massif central. Température maximale au meilleur de la journée, 30 à 32 degrés.